Radio Okapi. À la présentation du journal, Agathon Pona et Lema. Okapi.
Les expulsions des Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazzaville ont repris de plus belle depuis quelques jours. Ces expulsés affirment qu'elles sont tout aussi violentes que les précédentes. Dona Madimba en a rencontré quelques-uns aujourd'hui au Beach Ngobila. Son reportage dans quelques minutes. Des orpailleurs sont morts dans un éboulement en Ituri dans la réserve de Fauna Okapi. L'administrateur du territoire en appelle à une enquête impliquant la société civile locale. Et il est possible d'exploiter des minerais en respectant les droits humains. Maria Arena, eurodéputée belge, le confirme. Le Parlement européen exige désormais aux entreprises européennes une traçabilité des minerais stanifères et aurifères et autres pour garantir que ces produits n'alimentent pas les conflits armés. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qui démarre à Kinshasa où l'on pensait ces événements totalement finis. Mais voilà que les expulsions des Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazzaville reprennent de plus belle. Il s'agit cette fois-ci des Congolais vivant à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Radio Okapi a assisté à une vague d'arrivée ce jeudi. Ils étaient une centaine au poste frontalier du Beach Ngobila. Les infortunés, un peu comme ceux des vagues précédentes, parlent également de brutalité, mais aussi de mort d'hommes pendant ces opérations d'expulsion. Dona Madimba les a rencontrés. Voici son reportage.
Ils s'arrachent presque tous les uns les autres la parole pour nous rapporter leur calvaire.
On m'a raflé sur le chemin du boulot. Moi, ce qui me concerne, on m'a raflé à mon lieu de travail au marché.
Ils sont surtout des jeunes hommes, coiffeurs, manutentionnaires, bref, faisant de petits métiers.
Moi, je suis boucher. Moi, je suis maître peintre.
Mais aussi des quadragénaires et pères de famille.
J'ai 42 ans.
Ils sont enfin arrivés à Kinshasa, expulsés de Pointe-Noire, deuxième ville du Congo-Brazzaville, dans le cadre de l'opération d'expulsion des sans-papiers dans ce pays qui, selon des informations reçues, touche désormais Pointe-Noire. Mais selon ces refoulés congolais, ces expulsions continuent d'être brutales et à causer de nombreux morts.
On était détenus dans de très mauvaises conditions. Il y avait de l'étouffement et j'ai vu au moins 7 personnes mourir. Moi, par contre, j'en ai vu 6.
Ils racontent surtout avoir tout perdu, parfois même leur famille.
Je suis désormais séparé de ma femme et de mes deux enfants qui, eux, sont restés au Congo.
La vague de Pointe-Noire a commencé depuis quelques jours déjà. Et à ce stade, les témoignages rapportent au moins une centaine de Congolais expulsés du Congo voisin chaque jour.
En Ituri, province orientale, plusieurs personnes sont mortes dans un éboulement. Il s'est produit mardi dernier dans un foyer d'exploitation artisanale d'or dans le village de Mouchacha. Nous sommes là à plus de 250 km au sud-ouest de Bounia, sur la RN numéro 4, en pleine réserve de Fauna Okapi. La nouvelle nous a été rapportée ce jeudi par plusieurs sources locales alertées par un rescapé du drame. Sadiki Aboubakar, pouvez-vous nous donner des précisions sur le nombre de morts au cours de cette éboulement?
Il est pour l'instant difficile de donner le nombre exact des morts causés par cet éboulement. Célestin Mansoudi, président de l'association civile de Badengaïdo, parle des deux morts, tandis que Alfred Bongwalanga, l'administrateur du directeur de Mambasa, parle, lui, d'une dizaine de morts, se basant sur le témoignage d'un rescapé. Le conservateur de la RFO, Lucien Gédéon Lokoumou, dit ne pas être informé de cet éboulement, car selon lui, il n'existe plus un seul orpailleur dans cette carrière parce qu'ils ont tous été déguerpis il y a plusieurs mois. Par contre, l'administrateur du territoire indique que ceci est le troisième éboulement à Mouchacha depuis la mesure de déguerpissement qui n'a jamais été effective, tout en fustigeant le résultat d'une commission d'enquête envoyée sur terrain il y a quelques mois par les autorités de la province. Il en appelle à une autre enquête qui va impliquer la société civile. Cette dernière demande aux autorités de mettre en place un mécanisme alternatif pour l'occupation des populations de Badengaïdo qui n'ont pour activité que leur paillage. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Merci Sadiki Aboubakar. Et en parlant de minerais, sachez que le Parlement européen a voté mercredi un règlement visant à briser le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et le financement des conflits armés dans les pays en développement, dont la RDC. Pour Marie Arena, l'eurodéputée belge chargée de ce dossier et qui en avait fait son cheval de bataille, il est possible d'exploiter les minerais en respectant les droits humains. Marie Arena explique l'essentiel de ce règlement. Elle est au micro de Mireille Boukassa. Mukendi.
Toutes les entreprises qui vont produire ou vendre des produits qui contiennent l'étain, le tungstène et le coltan, plus l'or, devront garantir une information de traçabilité de ces minerais. Si ces entreprises sont actives par le biais de filiales en République démocratique du Congo, par exemple, ces entreprises devront garantir que ces minerais n'alimentent pas les conflits en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des entreprises cyniques qui disent « peu importe le prix des vies à payer, nous voulons avoir accès à ces ressources ». Nous disons « il est possible d'avoir un commerce qui respecte les êtres humains, mais aussi qui leur permet un épanouissement et un développement ». Et donc, nous disons « toute entreprise européenne qui produit avec ces minerais ou qui vend des ordinateurs par exemple qui contiennent ces minerais devront adhérer à cette obligation d'information depuis le début de la chaîne jusqu'au bas de la chaîne.
En bref, sachez que ce jeudi a été lancé à la base militaire de Kamina dans le Katanga la troisième phase du programme global désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense. Ce programme est financé à hauteur de 85 millions de dollars par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires extérieurs et va couvrir une période de 4 ans. Le DDR-3 débute donc ce jeudi avec 1739 ex-combattants candidats à la réinsertion. Dans le Nord Katanga, cette fois-ci, le ministre provincial de l'Intérieur qui séjourne à Kalemie a annoncé hier soir au cours d'un point de presse une série de mesures pour accompagner le processus de paix entamé dans le secteur de Nyunzu. Nyunzu est aujourd'hui en proie à l'insécurité provoquée par des conflits intercommunautaires opposant Bantou au peuple autochtone. L'annonce de ces mesures intervient 48 heures après le passage de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la zone. Écoutons Juvenal Kitungwa dans un extrait de son allocution proposé ici par François-Xavier Mibé.
La première piste de solution, c'est qu'il y ait un déploiement réel des éléments de force, de la police et de l'armée pour traquer les extrémistes et puis sécuriser la région. La deuxième piste, c'est une commission de médiation que nous venons de mettre sur pied. Nous allons entamer ce long processus de réconciliation, ce long processus de cohabitation pacifique. Parce que ça fait des centaines d'années que le Bantou et les Pygmées vivent en symbiose, surtout au niveau de Nyunzu. La dernière piste de solution, c'est l'élément assistance. Les déplacés des guerres ont vu leur village complètement brûlé, leurs champs dévastés. Nous sommes engagés à pouvoir le faire ensemble, nous, gouvernement provincial, le gouvernement de la République et la MONUSCO avec toutes les agences du système des Nations Unies.
Justice, dans ce journal, vous avez suivi sur nos antennes que la Chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision de la Chambre de première instance rejetant la mise en liberté provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour son parti, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, cette question de liberté provisoire n'est plus d'actualité. Ce qui compte pour l'instant, déclare Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, c'est le verdict attendu de cette cour et elle le dit ici au micro d'Innocent Olenga.
Je confirme que le sénateur Jean-Pierre Bemba bénéficie d'une mise en liberté provisoire sur la seconde affaire, la subornation des témoins, et c'était confirmé au mois de février 2015. Et que pour le moment, cette question n'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité maintenant, nous attendons le verdict sur l'affaire principale de la Cour pénale internationale. Alors, en ce qui concerne le militant du mouvement de libération du Congo, vous ne devez pas être distrait sur certaines choses. Il est bénéficiaire d'une liberté provisoire. Et même pour l'affaire principale, il bénéficie aussi de la liberté provisoire. Au début, cette décision n'était pas appliquée parce qu'il n'y avait pas de pays d'accueil. Pour le moment, nous avons des pays d'accueil, nous n'avons pas besoin de triomphalisme, mais nous attendons le verdict de la Cour pénale internationale.
Sachez aussi, pour clore ce journal, qu'Albert Kalongi-Moulopoué, l'un des pères de l'indépendance du Congo, n'est plus. Il s'est éteint en Mbujimayi le 20 avril dernier à l'âge de 86 ans. Selon des sources bien renseignées, il est enterré dans son village natal à Katende, dans le territoire de Miabi au Kasaï oriental. La nouvelle de son décès est confirmée par le comité des notables de la province. Cette nouvelle est annoncée un mois après son décès, selon la tradition. Et c'est seulement maintenant que des commissions sont constituées sur place en Mbujimayi pour préparer le deuil d'Albert Kalonji. Chris Mukand, dites-nous qui était Albert Kalonji Mulupwe.
En politique et homme d'affaires congolais, Albert Kalonji est né en 1929 à Mptine, près de Lulouabourg, aujourd'hui Kananga. Cofondateur avec Patrice Emery Lumumba du mouvement national congolais MNC, il milite avec lui pour l'indépendance du Congo. En 1960, Albert Kalonji se proclame empereur des Baluba du Kasaï et chef d'État du Sud Kasaï. Diplômé en 1948 comme assistant agronome, il est engagé en 1951 à la colonie en qualité d'assistant agricole. Il est invité à Bruxelles pour l'exposition universelle de 1958, condamné en août 1959 pour incitation à la haine raciale lors du conflit entre les Lulua et les Baluba. Il est envoyé en relégation à collé dans le Sankuru pour être ensuite libéré. Il participe en 1960 à la table ronde belgo-congolaise. En août de la même année, il devient président de l'État autonome du Sud Kasaï. Proclamé roi du Sud Kasaï sous le nom d'Albert Ier en 1961 et opte pour le titre de Mulopwe du Royaume fédéré du Sud Kasaï. En Mbujimayi, le deuil de cette mémoire socio-politique qui disparaît au sujet de l'histoire du Congo sera tenu à partir de ce 30 mai 2015. Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Et ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi.